Le froid réveilla Amy à l'aurore. L'humidité de la forêt transperçait ses vêtements.
L'Ibiron flottait, tassé entre les bras d'un fauteuil vermoulu.
Amy se leva en grimaçant sous l'assaut des courbatures et sortit des ruines pour examiner le village à la lueur du jour. Elle dénombra une douzaine de maisons, pour la plupart effondrées. Des ronces avaient poussé dans les rues. Le lierre avait recouvert les façades noircies. Dans quelques années, la végétation aurait complètement digéré Wansgate. La jeune femme fit trois pas dans la grande rue. Des bancards subsistaient, çà et là, des enseignes de bois à l'ancienne que le feu avait épargnées. Elle identifia un pub, au bûcher des sorcières, une forge, une épicerie. À l'intérieur des masures dédaignées par les flammes, des meubles achevaient de se couvrir de mousse ou de moisissures. Des vêtements, pendus à des patères, pourrissaient. Chaque fois qu'elle se penchait dans l'encadrement d'une fenêtre, Amy provoquait la fuite d'un rongeur. Persuadée de visiter un hameau fantôme, elle faillit pousser un hurlement lorsqu'au détour d'une ruelle, elle se trouva nez à nez avec un vieillard courtot, enveloppé dans une pelisse de berger. Ses cheveux blancs flottaient sur ses épaules, sa barbe tombait sur sa poitrine. Il avait l'air d'un ermite surgi d'une gravure du XVIIIe siècle. Un chien arthritique le suivait en haletant, l'œil gauche couvert d'une taie blanche. « Nous nous sommes égarés dans la forêt, » improvisa Amy. « Le bombardement nous a affolés. Mon ami a perdu le contrôle de la voiture. » Nous avons versé dans le fossé.
Le froid réveilla Amy à l'aurore. L'humidité de la forêt transperçait ses vêtements. L'Ibiron flottait, tassé entre les bras d'un fauteuil vermoulu. Amy se leva en grinçant sous l'assaut des courbatures et sortit des ruines pour examiner le village à la lueur du jour. Elle dénombra une douzaine de maisons, pour la plupart effondrées. Des ronces avaient poussé dans les rues, le lierre avait recouvert les façades noircies. Dans quelques années, la végétation aurait complètement digéré Wansgate. La jeune femme fit trois pas dans la grande rue. Des pancartes subsistaient, çà et là. Des enseignes subsistaient, çà et là. Des enseignes de bois à l'ancienne que le feu avait épargnées. Elle identifia un pub, au bûcher des sorcières. Une forge, une épicerie. À l'intérieur des masures dédaignées par les flammes, des meubles achevaient de se couvrir de mousse ou de moisissures. Des vêtements pendus à des patères pourrissaient. Chaque fois qu'elle se penchait dans l'encadrement d'une fenêtre, Amy provoquait la fuite d'un rongeur. Persuadée de visiter un hameau fantôme, elle faillit pousser un hurlement lorsqu'au détour d'une ruelle, elle se retrouva nez à nez avec un vieillard courtot, enveloppée dans une pelisse de berger. Ses cheveux blancs flottaient sur ses épaules, sa barbe tombait sur sa poitrine. Il avait l'air d'un ermite surgi d'une gravure du XVIIIe siècle. Un chien arthritique le suivait en haletant, l'œil gauche couvert d'une taie blanche. « Nous nous sommes égarés dans la forêt, » improvisa Amy. « Le bombardement nous a affolés. » Mon ami a perdu le contrôle de la voiture, nous avons versé dans le fossé. » Le vieillard la fixait sans réagir, comme s'il ne la voyait pas. Elle se demanda s'il s'agissait d'un demeuré, d'un ancien idiot de village oublié lors de l'exode des autochtones. « C'est Wansgate ici, » déclara tout à coup le bonhomme d'une voix grondante. « C'est un endroit maudit, faut pas venir chez nous, c'est dangereux. Surtout pour les étrangers. « En tant que citadine, vous n'êtes pas protégée. La forêt pourrait décider de vous jouer un mauvais tour. » Il hocha la tête et lui fit signe de l'accompagner jusqu'à une bicoque plus ou moins habitable. « C'est la maison du maire, » ricana-t-il. « Je l'ai réquisitionnée quand ce sale bougre a brûlé avec sa famille. Après, j'ai éparpillé son cadavre en sautant dessus à pieds joints. Il était tellement carbonisé qu'il s'est effrité comme une bouse de vache séchée. Ça m'a fait du bien. » De son vivant, Il m'en avait fait trop voir, ce salopard. Il voulait me faire enfermer dans un hospice chez les dingues. L'incendie lui a cloué le bec, oui, à lui et aux autres. Depuis, le village m'appartient. Je suis chez moi. On m'appelait Moody Jack parce que j'allais pêcher dans les vasières. Je suppose que je peux encore utiliser ce nom-là. Je ne sais plus grand-chose de ce qui se passe au-delà de la forêt. Le monde a dû sacrément changer. Peut-être que vous n'avez plus de nom de nos jours, juste des numéros. Il poussa fermement la jeune femme à l'intérieur de la bâtisse. Il y régnait une tenace odeur de moisissure, comme partout ailleurs, mais la salle était impeccablement rangée. Sur un établi s'étalaient des outils et d'étranges statuettes naïves que le vieux taillait dans des morceaux de bois tendre. « Asseyez-vous, ma belle, grommela-t-il. Je vais vous chauffer de la tisane de gland, ça vaut bien leur foutu café. Vous sucrerez au miel. Je me débrouille avec ce que je glane dans la forêt. Je ne veux rien avoir à faire avec les gens de la plaine. Je les laisse s'entretuer, c'est pas mes affaires. Je regrette qu'une chose. Avec leur foutue explosion, ils ont rendu mon chien sourd. » Ayant ôté sa cape, il s'activa, ranimant un fourneau qu'il entreprit de nourrir avec de la mousse et des bousses séchées. Libby apparut dans l'encadrement de la porte, les sourcils arqués par la stupeur. Ami lui fit signe de s'asseoir et de s'abstenir de toute réflexion. Quand il se retourna, son pot fumant à la main, Moody Jack ne s'étonna nullement de sa présence. Au vrai, il parut ne pas la remarquer. Imperturbable, il versa le liquide brûlant dans des bols ébréchés qu'il poussa vers ses visiteuses. « Avalez ça !» ordonna-t-il. « Ça vous réchauffera les boyaux. Les filles, c'est toujours fragile du ventre. » Le chien vint flairer les souliers d'amis, lâcha une plainte sourde, puis retomba sur son derrière, épuisé par l'effort. « C'est un village historique !» reprit Moody Jack en bourrant une pipe à l'aide d'un tabac qui n'avait ni la couleur ni l'odeur du tabac. Dans le temps, je vous parle de l'époque des chevaliers de la table ronde, c'est ici que les bourreaux venaient ramasser le bois pour confectionner les fagots des bûchers. Il paraît que c'était un bois spécial qui, une fois allumé, ne s'éteignait jamais, même sous la pluie. Une sorte de feu grégeois. On s'en servait pour brûler les sorcières. De cette manière, si elles tentaient d'échapper à la sentence en déclenchant une averse, le maléfice restait sans effet. Vous comprenez ? Les gens du coin étaient très fiers de cette particularité. Ils s'en félicitaient le soir au pub en vidant des chopes. Et puis un jour, une sorcière plus puissante que ses congénères s'est vengée. Du haut du bûcher, elle a jeté une malédiction sur Wandsgate. Il prit le temps d'allumer sa pipe puis demeura silencieux, comme s'il avait oublié qu'un instant auparavant, il était occupé à raconter l'histoire du village. Ami hésita à le lui rappeler. De toute manière, cette légende ne l'intéressait pas. Elle était ici pour localiser l'ancien château d'Ashden. Le vieux connaissait sûrement l'emplacement des ruines. S'il pouvait leur indiquer un raccourci. « Et ensuite, » nasilla Libby avec impatience, « la sorcière, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Moody Jack s'ébroua, une étincelle de vie se ralluma dans ses yeux. Elle a dit, « Vous qui êtes si fiers du pouvoir de vos arbres, vous allez apprendre à le maudire. Désormais, chaque fois que l'un d'entre vous aura une mauvaise pensée, tout objet en bois sur lequel il aura la main posée s'enflammera spontanément. Vous saurez ainsi ce que c'est de mourir sur le bûcher. » Et c'est ce qui s'est passé. De ce jour, les incendies se sont multipliés. Il ne se passait pas une semaine sans qu'une maison ne prenne feu. Beaucoup de gens sont morts carbonisés dans leur lit en commettant le péché de chair. Il a fallu que la population de Wandsgate apprenne à pratiquer l'abstinence et devienne très pieuse. Ça n'a pas été facile. Et puis, le temps a passé, les siècles et tout ça, la malédiction s'est affaiblie, mais elle est tout de même là, tapie au cœur de la moindre bûche, du plus humble fagot. Chaque poutre, chaque planche qui nous entoure en est imprégné. Ça dort, mais ça ne demande qu'à se réveiller. Il hocha la tête, susauta le tuyau de sa pipe et se leva en déclarant : « C'est pas tout ça, mais faut faire la soupe.
Vous devez avoir faim, mes bougresses. »
Attrapant au passage un panier d'osier, il sortit dans le jardin ramasser des légumes. Libby se tourna vers Ami et se toucha la tempe.
« Il est dingue, non ? » murmura-t-elle. « Il me flanque la trouille avec ses histoires de malédiction. Qu'est-ce qu'on attend pour ficher le camp ?»«
Je pense qu'il peut nous montrer le chemin d'Ashden, » expliqua Ami. « Ça nous évitera de tourner en rond dans les bois. Je n'ai pas envie de mourir de faim au milieu des arbres, loin de toute civilisation. Pense que s'il nous arrivait un pépin, personne ne se lancerait à notre recherche. Pas même ce pauvre vieux qui aura oublié notre existence 5 minutes après notre départ. » Elles attendirent en silence le retour de Muddy Jack, qui réapparut, son panier rempli de légumes terreux.
« Les explosions leur donnent une saveur bizarre, » expliqua-t-il. « Mais on s'y habitue. Sur la langue, ça laisse comme un mauvais goût d'obus. Vous voyez ? Comme si on suçait un shrapnel. Mais je pense que ça finit par vous immuniser contre les bombes, à la manière d'un contrepoison. »
Il s'activa devant l'âtre, rinçant les tubercules dans un seau, plaçant une marmite sur le feu.
« Vous n'avez pas peur d'être touché par les bombardements, sans qui Ami ?»«
Non, fit le vieillard. Je suis radiesthésiste. Avec mon pendule, je peux prévoir où les bombes tomberont. Il me suffit d'éviter les endroits dangereux et le tour est joué. Parfois, je m'avance jusqu'à la lisière des arbres et je regarde s'agiter ces pauvres gars sur la plaine. Je les vois construire des grands gigantesques où ils brûlent de vieux pneus. Ça n'a aucun sens. » Quand je pense qu'on m'accusait d'être fou, je me dis qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe dehors, je ferai figure de sage. »
Il ricana complaisamment dans sa barbe en fixant la marmite.
Ami ne voulait pas le brusquer. Elle craignait de le voir se rebiffer si elle lui demandait tout à trac de les conduire à Ashden. Avant cela, elle devait tisser entre eux des liens plus solides.
« C'est un bombardement qui a détruit Wandsgate ?» questionna-t-elle.
Jacques sursauta. Le chien, surpris, l'imita avec un gémissement inquiet.
« Non, grommela le bonhomme, c'est un lion qui a foutu le feu. Il est sorti des bois avec sa crinière de flammes, en rugissant comme une bête de l'enfer. Il a couru à travers les rues, se frottant aux maisons. Alors tout s'est enflammé. Wandsgate a brûlé aussi facilement qu'une botte de paille arrosée de pétrole. Moi, je revenais des vasières. J'étais couvert de boue de la tête aux pieds. Ça m'a sauvé. Quand le lion m'a frôlé, mes vêtements étaient trop mouillés pour s'embraser.
Un lion ? Fit prudemment Ami.
Ici, dans la forêt ?
Oui, je pense qu'en voyant les enfants jouer dans la rue, il a une mauvaise pensée. La tentation de les manger, sans doute.
Les lions ont ce genre d'envie. Alors la malédiction de la sorcière l'a frappé et il s'est enflammé. C'est simple à comprendre, même pour une femme. Il s'énervait.
Ami s'empressa d'entrer dans son jeu.
Et d'où venait-il ? Risqua-t-elle.
Muddy Jack eut un geste large du bras pour désigner un point quelconque au nord du village.
D'une espèce de cirque qui campait par là, répondit-il. Des Romanichels faisaient la tournée des campagnes dans l'espoir de soutirer quelques shillings aux paysans. Leur roulotte était pourrie, leur cage rouillée. Le lion s'est échappé et voilà, il a pris feu. À cause de lui, Wandsgate s'est embrasé et la moitié de la population a péri.
Remarquez-moi, je m'en moque, je les aimais pas.
Et même ça m'a fait plaisir de voir cuire ceux qui s'étaient montrés cruels avec moi. Bien plaisir, ouais, ma petite demoiselle. Il plissa les yeux. Une expression de ruse mêlée de méchanceté déforma ses traits. Il pointa le tuyau de sa pipe sur Ami. Vous, par exemple, siffla-t-il entre ses dents gâtées, avec vos cheveux rouges, vous pourriez bien vous enflammer d'un seul coup, comme ça, snap, avant de vous en rendre compte. Le feu aime le rouge. Ça lui donne envie, vous comprenez ?
Ça lui donne envie.
Ami réprima un frisson. Tout à coup, le bonhomme lui parut déplaisant, dangereux. Un vieil incendiaire, songea-t-elle. Un pyromane. C'est lui qui a flanqué le feu au village.
Son histoire de lion relève du délire. Maintenant, on va manger, annonça Jack. Après, je vous montrerai. J'ai rien de prévu aujourd'hui. Ils déjeunèrent dans un recueillement religieux, se partageant les pommes de terre à moitié crues, des tartines de saindoux et une sorte de fromage blanc additionné de miel. Le pain avait un goût étrange, mais pas désagréable. Jacques expliqua qu'il le pétrissait avec de la farine de châtaigne. Il vivait en autarcie, ne descendant au village que pour se procurer des allumettes, des chandelles et du sel qu'il troquait contre le produit de ses ruches. Tout à coup, Amy fut saisie d'un doute affreux. Le bonhomme n'était-il pas trop pittoresque? Et si c'était un agent de l'intelligence service, songea-t-elle? On aurait pu l'embusquer ici pour surveiller le périmètre de la zone interdite et faire la chasse aux espions. Sa méfiance s'éveilla. Les services secrets ne tenaient pas à ce que leur manœuvre de diversion soit inventée par l'ennemi. Ils devaient donc éliminer systématiquement tout suspect découvert aux abords des fausses usines d'armement, le tenant d'emblée pour un envoyé de Berlin. Mini Jack était peut-être un tueur, un dur à cuire des commandos, déguisé en idiot du village. Et d'abord était-il si vieux? Elle venait à en douter. Si l'on faisait abstraction de la barbe et des cheveux blancs, le visage, quoique buriné, n'avait rien de sénile. Le regard plus que tout l'inquiétait. Scrutateur, dur. À plusieurs reprises, elle l'avait surpris posé sur elle. Si c'est un soldat, se dit-elle, notre histoire de fille perdue dans les bois ne l'a pas abusé une seconde. Il sait que nous sommes là pour autre chose. Avant de nous tuer, il veut s'assurer que nous avons bien l'intention de photographier les décors de la zone interdite. Heureusement, nous n'avons pas emporté de caméra. La nourriture passait mal. Pour gagner du temps, elle accepta une tisane digestive. C'était peut-être une erreur. Et si le bonhomme avait prévu de les empoisonner ?